sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme la radio.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Sur Onde Femme, Radio Zone, nous reprenons la relève, la pleine lune, comme elle a dit. Et dans le ciel, vous ne le voyez pas, le ciel est tout gris, mais ça ne fait rien, tout noir, tout sombre. C'est horrible l'hiver. Mais enfin, la pleine lune est dans vos oreilles, comme toujours. Ce soir, notre programme spécial, comme tous les mercredis, nos nouvelles, suivies du memento. Et puis, comme tous les 15 jours, nous accueillons le quart d'heure lesbien, canicule sur Radio Pleine Lune, le quart d'heure lesbien, aux environs de 19h. Et puis Marie-Ange, bien sûr, nous a concocté toute une série de nouvelles, beaucoup de musique de femmes. Et puis un téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 00 33 depuis je ne sais pas où. Et comme ça, vous pouvez aussi nous téléphoner, nous dire bonjour, nous raconter vos histoires, vos nouvelles. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz.
Pendant des siècles, moi aussi.
Olaf Nöch lire sa machine, des Lusinson. Olaf Nöch.
Moi aussi j'ai été machine dans leurs usines, moi aussi.
Nani, Moudi, Sarnek, Hakmoudar Loir, Fess Madavror.
Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera.
Nani, Moudi, Deljisonek, Hakmoudar Ires, Satsrazot.
Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger.
Nani,
ils m'ont dit, donne-moi ton sang, je te donnerai un cachet d'aspirine.
Oulafnuk, oulafnuk, oulafnuk.
Oulafnuk, naniying. Oulafnuk, naniying. Oulafnuk, naniying.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. Démission de Madame Thatcher. Thatcher, la dame de fer, tombe par terre. Nos commentaires. Le départ de Madame Thatcher ne peut que nous plaire. Violemment antiprogressiste, antiféministe, Madame Thatcher a été malgré tout une femme alibi. En effet, pour les machos, quoi de plus utile qu'un contre-exemple de femme au pouvoir? Cela permettait chaque fois que des femmes s'indignaient contre le peu de représentation féminine dans les instances dirigeantes de rétorquer « Haha, les femmes au pouvoir, porteuses d'autres valeurs, mon cul, regardez Madame Thatcher ». En effet, la carrière politique de Maggie Thatcher a été un magnifique exemple de ce qu'on a pu faire de pire en matière de cynisme politique. Dès 1970, nommée ministre de l'Éducation dans le gouvernement Hiss, elle décide de ne plus fournir de lait gratuit aux enfants scolarisés âgés de 8 à 12 ans. Margaret Thatcher, voleuse de lait, tempétère alors les travaillistes. Rappelons ses autres exploits. Elle a mis à genoux le syndicalisme classique britannique en refusant tout compromis durant la grève de plus d'une année des mineurs, laissant au bout du compte le nord de l'Angleterre complètement exsangue. Elle a laissé les militants irlandais mourir dans leur prison d'une grève de la faim plutôt que de leur accorder le statut de prisonnier politique. Elle a envoyé son pays à la guerre dans un dernier sursaut colonialiste pour défendre la présence des Anglais aux Malouines. Elle a réformé le système d'impôts, la fameuse poll tax, de façon à ce que les pauvres payent plus d'impôts que les riches. Logique, non. Et on pourrait rallonger la liste. Voilà qui nous fait réfléchir sur les valeurs féminines décrites par Gabrielle Nanchen, qui devraient définir les priorités politiques, économiques et sociales quand les femmes viennent au pouvoir. Il y aurait donc deux types de personnages politiques féminins. L'une portée au pouvoir par la vague des luttes de femmes qui utilise son poste pour amplifier, répercuter, mettre en œuvre les aspirations des femmes. L'autre, comme l'ont été Maggie Thatcher et Elisabeth Kopp en Suisse, qui ne représente que le pouvoir des banques et des industriels, qui tout au long de leur carrière ont dû convaincre, prouver qu'elles n'étaient pas femmes, mais plus hommes que quiconque. Et pourtant, même si Maggie Thatcher rejette catégoriquement les féministes, dont elle dit « je n'aime pas les femelles qui poussent des cris stridents, j'aime les gens qui ont des capacités et qui ne brandissent pas sans cesse leur drapeau », personne, ni dans les couloirs du pouvoir, ni dans les médias, n'a oublié que c'est une femme. Elle a mis plusieurs années à venir à la politique et à trouver une circonscription. Elle a beau faire acte de candidature auprès de la direction du Parti conservateur, on lui répond qu'on est très impressionné par ses qualifications et son intelligence, mais qu'une femme avec des bébés ferait mieux de rester à la maison. C'est l'antre des old boys, on ne touche pas à leurs habitudes. Et Edward Heath ne l'appelle que « that bloody woman ». Si les hommes veulent bien que des femmes soient au pouvoir, ils en définissent bien les limites. car le machisme se masque derrière une pseudo-galanterie, une rhétorique égalitaire prétendument sincère et l'affirmation que les femmes sont les bienvenues dans tous les lieux de pouvoir, à condition qu'elles aient le bon goût de ne pas y prétendre puisque la place est prise. En politique, comme dans d'autres domaines, les hommes continuent à avoir une conception décorative de la femme. Cela fait joli dans un gouvernement sur une liste de candidats dans un état-major d'avoir un semi de personnes du sexe féminin. L'inconscient masculin n'a pas supporté que Maggie Thatcher, cette femme-là, comme on l'appelait, ne se soit pas contentée de jouer les utilités. Elle était hors norme avec cette manie qu'elle avait d'être le portrait craché de ses caricatures. Marâtre, insensible, dure aux faibles, guerrière, intransigeante, cynique, têtue. Pas une femme-femme, l'idéal féminin des misogynes, mais une femme-homme d'État. Contenu jusqu'ici, le machisme, la délectation de la revanche a éclaté après sa démission. Ah la salope, bien fait. Et là, les médias se sont laissés aller, dévoilant dans leur joie leur vrai visage de cochon phallocrate. Ce n'est pas tant qu'elle soit ultra-conservatrice qui leur faisait mal aux zizi, c'est qu'elle soit une femme. La palme en revient à la tribune de Genève. Voilà ce qu'on a pu lire sous l'encre bleue de une signature Julie. Mamie Thatcher a rendu son tablier. Elle va pouvoir remettre l'autre, celui qui dort dans sa cuisine depuis 1979. Nos problèmes. Il retrouvera son new look. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, disait Nougaro. Eh bien, Margaret a finalement donné raison à Nougaro. Home sweet home. Elle rentre à la maison, retourne à ses confitures. C'est son mari qui sera content. Il devait en avoir ras-le-bol de jouer les cocottes minutes pendant que sa lady se mettait à table avec ses agents conservateurs. Aujourd'hui, elle empoigne la situation ménagère. Maggie, au fourneau, l'époux va déguster. Quant au parti conservateur, en élisant le poulain de Thatcher Major comme candidat, il se garantit de pouvoir continuer le thatchérisme sans Maggie. Aux États-Unis, les femmes grosses ont-elles le droit d'être infirmières ? Sharon Russell a été renvoyée de son école à cause de ses 135 kilos. Mais elle ne s'est pas laissée faire et sa lutte pour les gros et les obèses mobilise l'opinion américaine. Verdict dans quelques mois. Sharon Russell a été renvoyée d'une école d'infirmières en 1985 parce qu'elle pesait plus de 135 kilos et elle a attaqué alors l'école en justice. Aujourd'hui, le dossier passe en Cour suprême et Sharon Russell fait de son combat pour les gros et les obèses une bataille pour la dignité humaine. L'école d'infirmières de Newport, après avoir été condamnée l'an dernier à lui payer 44 000 $ de dommages et intérêts, a fait appel et a perdu. Elle a donc intenté une ultime démarche devant la Cour suprême qui rendra son verdict l'année prochaine. Sharon Russell, 26 ans, affirme que son poids est la seule raison de son renvoi de l'école. « Mais nous ne renvoyons pas les étudiants parce qu'ils sont gros », répond la responsable de la section infirmière de l'école. « Nous l'avons renvoyée parce qu'elle avait des problèmes de comportement qui la rendaient incapable d'assurer son rôle d'infirmière. La direction de l'école prétend qu'elle n'était pas en bonne santé en raison d'une mauvaise alimentation et qu'elle ne pouvait s'occuper correctement des malades. Sharon Russell raconte son expérience dans cette école comme une continuelle humiliation. « Dès le premier jour, dit-elle, mon professeur m'a regardée et m'a dit « On n'arrivera pas à trouver un uniforme pour vous et vous n'arriverez jamais à faire un lit. » Elle explique qu'elle a servi de cobaye humain en classe quand il s'agissait de montrer comment faire le lit d'un malade obèse et comment faire une piqûre à une personne trop grosse. Elle a subi tout cela en silence, mais sans rien dire. « À l'intérieur de moi-même, dit-elle, cela me détruisait. » Aujourd'hui, Sharon Russell a un poste de superviseur à l'hôpital pour enfants de Saint-Pétersbourg, aux États-Unis. Elle est aussi l'une des dirigeantes de l'association de défense des gros, une association qui revendique 33 000 membres. Son message est simple, acceptez-vous comme vous êtes, vivez votre vie. Oh, Europe de l'Est, les femmes balayées par la démocratie. La présence des femmes au sein des parlements des régimes communistes était une illusion d'optique. Avec l'avènement de la démocratie en Europe de l'Est, elles ont pratiquement disparu de la scène. La règle des quotas qui leur assurait une place faisait l'impasse sur leurs compétences et aujourd'hui, en tout cas, on les a renvoyées, sans parler de la compétence des hommes qui les ont remplacées. Une étude du Conseil interparlementaire de Genève indique en effet que les femmes sont beaucoup moins nombreuses à siéger dans les parlements des pays de l'ancien bloc communiste. Le déclin le plus significatif s'est produit en Roumanie, où les femmes représentaient 34% des députés sous l'ancien dictateur Ceausescu. Depuis les législatives de mai dernier, leur nombre a chuté de 30%, elles ne sont plus que 4%. La chute du communisme va avoir comme conséquence que les femmes vont s'impliquer de moins en moins dans la vie publique. En effet, elles n'ont pas eu à se battre pour revendiquer, pour prendre leur place dans le système communiste et elles ne comprennent pas très bien quels sont les moyens qu'elles pourraient mettre en œuvre maintenant pour acquérir une véritable place dans ces démocraties qui s'installent. Pour beaucoup de femmes, la conséquence de l'émancipation à la sauce communiste a eu la conséquence d'aller travailler et donc de cumuler encore plus le double travail au bureau, à la maison, dans les usines, à la maison. Dans le pays, par exemple en Union soviétique, la situation générale des femmes est assez grave. Elles accomplissent toujours les travaux physiques les plus lourds dans les champs de coton et dans l'industrie textile. Les travaux nuisibles pour la maternité, comme la pose des rails de chemin de fer, ne leur sont pas épargnés. Elles ont seulement échappé à la mine. Se pose aussi, bien sûr, actuellement, on cite comme exemple de la position des femmes au pouvoir l'histoire de cette députée au Conseil suprême de l'Union en Union soviétique qui proposa, alors qu'on débattait d'un point chaud, de suspendre la discussion et de rentrer à la maison afin de pouvoir envoyer les enfants au camp, les vacances scolaires ayant commencé. Voilà une réalité que les hommes n'ont jamais dû se poser. Une femme ne peut jouer un rôle dans la vie publique qu'après avoir fait les courses, la lessive et mis les enfants au lit, regrette une rédactrice d'un magazine féminin tchèque. Pendant ce temps, les hommes ont tout le loisir de s'intéresser à la politique. L'homme est finalement un pan. Ses ambitions concernent la vie publique et la sélection politique est plus affaire de jeu, de coude que de compétences, déplore une intellectuelle. En Tchécoslovaquie, le pourcentage des femmes faisant de la politique dans les instances supérieures a été divisé par 5 avec l'avènement de la démocratie. Dans ce pays, c'est presque devenu une mode de reprocher aux femmes de n'avoir rien fait pour renverser le régime ONI et de trouver normal que les hommes soient dédommagés par des postes intéressants pour leur engagement risqué. Dans un quotidien alémanique, une chèque s'insurge. Que signifie s'engager ? Est-ce chercher la popularité par des effets de manche faciles à la tribune ou au contraire s'investir dans la réalité quotidienne pour réaliser les idéaux de la révolution de novembre ? Malgré l'égalité des sexes officiels, les femmes tchèques à compétences égales gagnent 10% de moins que les hommes. Bien que le pays compte davantage de femmes que d'hommes ayant un diplôme universitaire, au sommet de la pyramide, on ne trouve que des hommes. Faute de magazines féminins critiques, les choses ne vont pas changer rapidement. La dernière publication créée, à côté de la mode occidentale, promeut les concours de belles poitrines. En France, publication du premier rapport sur les problèmes médicaux de la prostitution, enquête faite à Paris. Un rapport officiel réalisé avec la contribution de près de 200 prostituées parisiennes fournit pour la première fois une série de données concrètes sur les conditions de travail ainsi que sur les multiples problèmes médico-sociaux auxquels les prostituées sont confrontées. Au terme de leurs études, les auteurs de ce rapport se prononcent contre la réouverture des maisons closes ainsi que contre le contrôle sanitaire imposé aux prostituées. C'est la première fois qu'un groupe de prostituées, 9 au total, est associé, contre rémunération, à un travail officiel cherchant à évaluer les besoins de santé des femmes vivant en marge de la société, corollairement souvent exclues de tout système de protection sociale. Cette approche a été rendue possible grâce à l'étroite collaboration établie entre des jeunes spécialistes du sida et quelques femmes connues pour jouer un rôle important dans les différents milieux de la prostitution parisienne. Les auteurs de l'enquête sont d'accord pour reconnaître que pour être efficace, la lutte contre le sida et contre les maladies sexuellement transmissibles impose la connaissance des pratiques prostitutionnelles et celle des problèmes rencontrés par les femmes prostituées dans l'accès aux soins. Cette enquête, au total, cette enquête donc a été menée à partir de questionnaires individuels. Il est en effet très douloureux, si on peut dire, et difficile de poser certaines questions à des prostituées qui, à travers toutes les questions, peuvent voir une tentative de contrôle ou de répression. Effectivement, demander à une femme si elle utilise le préservatif peut lui sembler comme un contrôle. Des questions peuvent être vécues comme des menaces. Par exemple, est-ce qu'elle vit avec quelqu'un ? Est-ce qu'elle est mariée, elle peut imaginer qu'on cherche à mettre en évidence le fait qu'elle ait un proxénète. Cette enquête donc a été menée à partir de questionnaires individuels auxquels ont accepté de répondre presque 200 prostituées travaillant à Paris. La réalité vécue par les prostituées parisiennes aujourd'hui est donc exposée à travers des cahiers de confidences. Plus d'une femme sur deux a un enfant au moins. Aux portes de Paris, la grande majorité de ces enfants ne vivent pas avec leur mère. L'âge moyen des 200 femmes de l'enquête est de 32 ans. Très peu ont plus de 50 ans. Dans leur grande majorité, les femmes prostituées ayant participé à cette enquête n'ont aucune couverture sociale. 75% d'entre elles déclarent avoir déjà fait un test de dépistage. Pour ce qui est de la contamination par le virus du sida, plusieurs disent être séropositives. Au terme de cette étude, parmi les propositions d'action majoritairement retenues par les femmes interrogées, on retrouve l'idée d'un bus d'information. En Suisse, le dernier bastion du machisme constitutionnel tombe. Les Appenzelloises pourront enfin voter. Elles pourront lever la main comme les hommes dans la dernière Landsgemeinde qui se refusait à les entendre. Le dernier bastion politique des hommes est donc tombé en Suisse. Le tribunal fédéral s'est prononcé en effet pour l'introduction immédiate du suffrage féminin dans le demi-canton d'Appenzell-Rhodes-Intérieur qui avait refusé à trois reprises d'accorder ce droit à ses citoyennes. Plusieurs recours avaient été déposés devant le tribunal fédéral, l'un signé par 53 femmes, l'autre par 49 hommes, tous donc habitants en Appenzell, qui contestaient le vote de la Landsgemeinde cantonale. Pour la Cour fédérale, l'égalité des citoyens devant la loi, en particulier l'égalité entre hommes et femmes, doit l'emporter sur l'autonomie laissée au canton en matière d'exercice des droits politiques. À l'issue de la délibération, les recourantes qui étaient présentes à Lausanne n'ont pas caché leur joie, peut-être même leur surprise d'avoir eu gain de cause. Elles devront toutefois attendre la prochaine Landsgemeinde cantonale en avril 91 pour exercer leurs droits. À Genève, un groupe de femmes qui luttent pour la paix dans le monde propose de fêter Noël, pas la guerre. Les jouets guerriers, les gadgets à piles qui consomment beaucoup d'énergie et qui sont très peu éducatifs ne devraient pas être offerts à nos petits chéris. L'association Femmes pour la paix, qui lutte contre le développement des jeux guerriers polluants et consommateurs d'énergie, lance un appel aux autorités et à la population genevoise. Ne pourrait-on pas déclarer Genève ville de paix et ville non nucléaire ? Noël approche et la course aux cadeaux démarre. L'association Femmes pour la paix repart donc en chasse contre les jouets de guerre et tous les gadgets qui fonctionnent à pile. Mini-ordinateurs, appareils ménagers, miniatures, robots sont d'affreux pollueurs et des grands consommateurs d'énergie. Françoise Chappat, secrétaire générale du WWF, qui fait partie aussi des Femmes pour la Paix, déclare « Chaque année, nous luttons contre ce phénomène de la vente des objets guerriers auprès des parents et auprès des commerçants. L'année dernière, très peu de publicité a été faite pour les jeux guerriers et ils étaient peu mis en évidence dans les magasins. Malheureusement, on déplore les animatrices de cette campagne. Cette année, le climat consumériste est moins pacifique. Dernier né des jeux de société, la guerre du Golfe avance sur le terrain des nouveaux cadeaux. Les jeunes voient résisteront-ils aux jeux de la guerre ? En fait, dans les magasins, on est assez conscient de ce problème et la vente des jouets guerriers est très nettement en baisse dans les magasins genevois. Un responsable du Grand Passage dit ainsi « Nous essayons de limiter le plus possible les commandes et nous ne poussons pas à la consommation. » Des jouets guerriers, bien sûr. Mais tout ce qui touche à la guerre des étoiles et de l'espace marche quand même très fort. Ainsi que les multiples robots. Plus c'est moche, mieux ça se vend. À la Migros aussi, la philosophie du magasin interdit la vente des jouets touchant à la violence et à la guerre. Quant aux jouets Weber, on soutient qu'on ne vend pas de jouets guerriers. De plus, il y a très peu de demandes. Le public est de plus en plus réticent. Aujourd'hui, les enfants sont attirés par les jeux électroniques et les ordinateurs, qui eux, bien entendu, ne sont pas du tout violents. Et les jeux de société reviennent à la mode. Toutefois, notons que dans les jouets Weber, on trouve tous les objets guerriers qu'on pourrait vouloir. Quant à au nouveau jeu de société, la guerre du Golfe, la Placède le considère comme un jeu de guerre et ne le vendra pas. Toujours dans le propos Femmes pour la paix, Laurence Deona essaye de mettre en dialogue, de mettre sur scène son livre « Femmes pour la paix » où on lit deux femmes ennemies, si l'on veut, à travers la guerre, s'exprimer. Une femme israélienne, et des femmes israéliennes et des femmes égyptiennes. La guerre à deux voix, donc tirée du même livre, du livre de Laurence Deona, devrait être montée pour Noël. La salle du centre de loisirs de la Jonction a déjà été retenue. Il y a déjà une comédienne genevoise, Jeanne Friedrich, qui travaille avec acharnement. Mais problème, il n'y a pas d'argent. Et Françoise Chappat de s'exclamer « Le coût des lampadaires allumés entre Confédération Centre et la rue de la Croix d'Or pour la période de Noël est de 80 000 francs. Nous avons besoin de 45 000 francs seulement pour subventionner notre pièce. Paix, économie, quel cadeau de Noël pour les Genevois !» Prévention des abus sexuels, un spectacle pour les écoliers à Genève. Le spectacle Bouche décousue, qui apporte une contribution à la prévention des abus et agressions sexuelles envers les enfants, va donc être circulé à Genève. C'est un spectacle qui nous vient du Québec. Il a déjà circulé dans le canton de Vaud. À Genève, jusqu'à présent, les écoles étaient relativement réticentes. Mais pourtant, et finalement, 15 représentations vont être organisées à Genève par le théâtre Amstramgram en avril 91. C'est Madame Hélène Brown-Rode qui avait demandé dans une motion que cette pièce puisse être présentée aux écoliers genevois. Le conseiller d'État a considéré que ce spectacle constitue un des moyens nécessaires pour réaliser une bonne prévention. Toutefois, ils ont décidé que ce spectacle serait joué plutôt devant des petits-enfants de 7 à 10 ans pendant les heures scolaires. Les 15 représentations prévues coûtent cependant trop cher pour le conseiller d'État. 51 000 francs ! Ça grève fortement le budget spectacle de l'enseignement primaire. Au détriment de tournées de petits spectacles, remarque le Conseil d'État. Mais la prévention des abus sexuels n'a pas de prix. C'était les nouvelles sur 93.8 MHz. Dans quelques instants, notre memento. Pour terminer, je vous signale la parution du dernier numéro de Ménage-toi, bulletin sur le travail domestique à Genève. Ce dernier numéro rend compte de leur colloque le colloque qui a eu lieu donc au printemps dernier et qui tournait autour de la question du temps. Effectivement, pour les ménagères, c'est souvent une question du temps. Il y a eu, on a pu pu entendre entre autres une femme italienne du Parti communiste, Marisa Rodano, qui avait présenté la loi, le projet de loi sur le temps. On a pu entendre aussi Edwige Pumanspuyet de la Commission européenne qui nous a parlé du crédit de temps. C'est donc toutes ces discussions qui sont reportées dans ce numéro. Nous y reviendrons plus tard, mais vous pouvez déjà vous le procurer. Il fait de toute façon si moche dehors, pourquoi ne pas rester dans son lit à lire de la bonne littérature ?